Et bonjour Martine Vallon.
Bonjour.
Bienvenue à Fréquence Mistral pour ce rendez-vous mensuel. Alors aujourd'hui, de quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien, aujourd'hui, je voulais aborder une petite réflexion, un questionnement sur notre rapport au vivant, notre rapport à la nature, sur la situation de l'homme. Et ce qui m'a amené à ce sujet, c'est une émission que j'ai écoutée, une interview de François Ruffin dernièrement, à propos de son livre « Il est où le bonheur ?» qui vient de sortir, où il parlait donc de cette recherche du bonheur et du fait qu'on le cherchait ou qu'on l'affichait dans les biens, il amenait l'idée que le bonheur pouvait se retrouver dans les liens. Et donc cette opposition, effectivement, entre les biens et donc le consommer, le avoir toujours plus, etc., m'a renvoyé à notre forme de place sur Terre. Je pense qu'à travers... à travers une position philosophique de départ, on va conditionner toute l'organisation de notre société et son fonctionnement, et donc impacter l'ensemble du monde dans lequel nous vivons. Et sur cette position de départ, je me disais qu'il y avait l'existence de deux concepts qui s'opposent, en fait, l'idée de compétition et l'idée de coopération. Ces deux point de vue, ces deux bases de départ, définissent une vision du monde et déterminent l'action humaine sur le monde. Ce sont des idées ancrées, profondément ancrées, qui structurent notre système de valeurs individuelles et collectives et notre interprétation du monde à travers une sorte de grille d'analyse. En fait, je rapprocherai ça de ce postulat qui est fréquemment dit, le monde est une jungle ou bien l'homme est un loup pour l'homme. Donc on est vraiment sur cette forme de pensée qui est sur la vie n'a pas de sens, c'est une lutte pour la survie. Et donc on est là par hasard et on doit se battre pour avancer. Et donc l'être humain devient irresponsable de tout ce qui existe. Et on a une deuxième forme de pensée qui pourrait aller à l'encontre de cet élément-là, mais en fait, qui débouche sur un peu les mêmes impacts et les mêmes conclusions, qui serait donc le point de vue religieux, je dirais. La vie est un don de Dieu, c'est ce qui lui donne son sens, mais en même temps, ce don de Dieu, il a été fait à l'homme, donc l'homme est en possession de tout le reste du monde, de tout le vivant. C'est cet aspect de notre culture, en fait, où la vie nous a été offerte par le Créateur avec l'idée de la domination de l'homme. Donc, c'est bon, dans la Bible, si je fais référence à la Genèse, un des premiers paragraphes de la Genèse, c'est Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute vie sur terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc c'est vraiment la possession et la domination sur le reste du vivant et justifiée ontologiquement. Il n'y a pas de coopération nécessaire ni de respect. Et donc, dans un deuxième paragraphe, enfin, la suite de ce paragraphe 1 de la Genèse, c'est « Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons, les oiseaux, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui nous est inculqué. Et un peu plus loin, c'est encore « Voici, je vous donne l'herbe, les arbres, enfin, tout être ayant en soi un souffle de vie. » Donc c'est vraiment l'homme qui prend possession et qui va dominer l'ensemble du vivant. Alors ensuite, on a l'arrivée de la science qui vient un peu bousculer ce point de vue de départ. Et qui vient remettre en question cet aspect où l'homme et les bêtes ont été créés tels qu'ils sont aujourd'hui donc les idées créationnistes et les idées évolutionnistes qui s'opposent donc avec la découverte que l'homme n'est qu'une branche parmi d'autres et qu'il est l'aboutissement d'un processus d'évolution donc tel que par exemple, Darwin le théorise. Et ce processus d'évolution comporte une lutte des espèces pour occuper l'écosystème. Et donc le plus adapté gagne, gagne le droit de rejouer et de poursuivre son évolution. Alors, on a eu là deux formes différentes, puisque avant Darwin, il y avait aussi l'évolution selon un biologiste français, Lamarck, qui était aussi, avec une théorie aussi de l'évolution naturelle, mais un peu différente dans la conception, j'allais dire, dans la conception philosophique. Selon Darwin, la sélection dans la durée se fait avec des imprévus, donc des hasards, qui entraîne quelque chose de différent dans l'individu d'une espèce. Et cet aspect différent va être plus adapté. C'est-à-dire que, apparaît une ou deux vertèbres de plus dans le cou de la girafe qui va lui permettre de manger mieux que sa voisine. Et donc, sa descendance va être renforcée. Donc, les gènes vont être transmis et donc cette évolution va se faire comme ça, par un changement fortuit qui fait qu'elle est mieux adaptée à l'environnement et que donc la reproduction va se faire et que ça va entraîner l'existence d'une nouvelle variété. Et donc il y a toujours cette idée de concurrence entre les espèces, et c'est le hasard qui amène une sélection naturelle, c'est la mieux adaptée qui va rester. Selon Lamarck, cette théorie, elle est plus transformiste, enfin, elle est plus, c'est une complexification croissante de l'organisation des êtres vivants qui vient d'une sorte de dynamique interne. Donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose au départ, donc ensuite il y aura une diversification, une spécialisation selon les espèces, donc avec l'adaptation, mais à partir d'un ou de quelques ancêtres, il va y avoir une sorte de volonté ou de désir d'évolution. Donc Lamarck, il a déjà une position qui est beaucoup moins scientifico-mécaniste que Darwin, donc avec une idée qu'il n'y a pas que le hasard ou qu'il peut y avoir autre chose. Et aujourd'hui, on a des chercheurs ou des généticiens. Par exemple, un docteur indien, le docteur Deepak Chopra, qui travaille sur la question des gènes et du pouvoir des gènes et de l'évolutivité des gènes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pensait que la génétique s'était donnée une fois pour toutes, qu'on recevait un héritage de gènes et que c'est avec ça qu'on devait fonctionner toute la vie. Il semblerait aujourd'hui qu'il y a des modifications possibles et qu'on peut intervenir et qu'on peut agir sur notre évolution même. Et donc, il part de l'histoire du cas d'une chèvre, donc dans les années 20. Une chèvre qui est née sans pattes avant fonctionnelles. Donc, les pattes avant étaient inutilisables. Et le chevreau s'est adapté à sa condition en apprenant à bondir comme un kangourou sur ses pattes arrière. Et puis, il a survécu pendant 1 ou 2 ans et il est mort accidentellement. Et donc, Slipper, qui est celui qui relate ce cas, il l'a autopsié. Et c'est là qu'il s'est aperçu donc, de choses surprenantes, c'est que les pattes arrière de la chèvre s'étaient allongées. Sa colonne vertébrale avait la forme d'un S à l'image de la colonne humaine et la manière dont ses os étaient rattachés aux muscles évoquait davantage l'anatomie humaine que celle d'une chèvre. Et d'autre part, d'autres caractéristiques curieuses, donc une plaque osseuse plus large et plus épaisse pour protéger le genou et une cavité intérieure arrondie dans l'abdomen. C'est-à-dire que En 1 ou 2 ans, donc dans la vie d'un seul individu et sur une période courte, le nouveau comportement qui était le fait de marcher à la verticale a transformé la morphologie de la chèvre en lui faisant ressembler à un animal qui marcherait sur 2 pattes. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de très curieux, cette espèce de mutation Et qui se produit alors que jusqu'à présent on pensait que les mutations, par exemple, il pouvait, enfin, un des éléments c'était de dire la mutation c'est sur un point spécifique. Or là, c'est tout un ensemble corporel, tout le système qui amène des ajustements qui sont articulés entre eux. Donc c'est vraiment un nouveau point de vue qui se fait jour sur la question de l'évolution. Bon, on va peut-être faire une petite pause et je reprendrai après sur cette question des deux postulats de base sur l'évolution, donc le hasard et la sélection et l'existence de l'homme en compétition et des espèces en compétition entre elles.
Donc on écoute Mélodie Gardot.
Donc, si je reprends, on voit que ces deux points de vue, le point de vue philosophico-culturel qui est « le monde est un don de Dieu, l'homme en a la possession, il en fait ce qu'il veut », et le point de vue de la science « le monde est un hasard et un combat pour la vie basé sur la compétition », Ces deux éléments-là ont amené la même conception, je dirais, le même modèle économique. C'est-à-dire qu'on a au départ les richesses naturelles, le vivant, etc., sont considérées comme un don de Dieu, donc éternel, infini, Il y a derrière cette idée de donner par un dieu, c'est quelque chose qui va, voilà, la corne d'abondance, on va en avoir, peu importe comment on le gère. Et c'est au service de l'homme et des sociétés, c'est-à-dire que la place de l'homme est prépondérante et donc à servir le monde. Et de l'autre côté, cet aspect de hasard et d'évolution lié à des hasards comme ça, improbables, entraîne aussi la conception, à ce moment-là, peut-être pas forcément, enfin, ou du moins la possession passe derrière quelque chose qui est le combat, la compétition, et donc tout ça sous-tend notre modèle de développement, notre modèle économique, notre modèle de société, en fait. Et les économistes, par exemple, tels que Adam Smith, qui ont été ceux qui nous ont posé les bases de notre réflexion économique et de notre choix de modèle et de développement, et ça n'est toujours pas remis en cause aujourd'hui, l'égoïsme de chacun contribue au bon fonctionnement du marché. C'est-à-dire, c'est par le soin que chacun met à la recherche de son propre intérêt, donc de son bonheur, de sa peau, de ses possessions, etc., de sa consommation. C'est ça qui va tout réguler, qui va faire fonctionner l'ensemble du monde. Et donc, une concurrence, même effrénée, même sans fin, va permettre la mise à disposition des produits et services accessibles à tous, sans difficulté. Et donc, seul le travail et le capital sont les sources de plus-value. Les richesses naturelles sont aussi des biens utilisables sans limite. Et en fait... Tout cela se pose sur la question de le fonctionnement de la concurrence, la compétition chacun contre tous les autres, qui est valorisée par la réussite des sociétés, le développement qui est justifié par le développement des individus ou leur épanouissement. Et en fait, il n'y a pas de lien interpersonnel ou avec le reste du vivant. Ça n'est qu'une compétition. Et même ce qui peut être considéré, par exemple, comme des liens, etc., tels que le mariage, par exemple, bon, c'est un contrat entre des personnes avec des échanges de services, de biens, etc. C'est vécu donc sur ce même modèle-là. Et on pourrait penser que les sociétés communistes qui ont existé donc, avec cette idée de peut-être de solidarité ou de valeur sociale ou de... en fait, la dictature du prolétariat, ça n'est pas mieux que la dictature du capitalisme dans ce domaine-là, puisqu'il y a cette idée de productivisme qui est préexiste, enfin, qui a une prémanence. Ce sont des sociétés de croissance aussi, c'est-à-dire il faut aussi de la consommation, des biens, etc. Et donc ces sociétés-là, que ce soit la Chine ou l'URSS, n'ont pas mieux réussi en termes d'effets et d'impact sur le monde que les sociétés capitalistes. On voit par exemple les dégâts qu'il y a pu avoir sur la mer d'Aral, qui était en 1960, la mer d'Aral était le quatrième lac au monde. C'était vraiment une mer immense. Dans les deux années 2000, avec le développement et la croissance, etc., elle n'était plus qu'à 50% de sa surface. Par le fait du détournement des fleuves qui y arrivait et pour faire de la culture de coton, par exemple. Et donc, on a eu la disparition de 28 espèces endémiques de la mer d'Aral qui ont complètement disparu suite à ce développement. En Chine, actuellement, on a beaucoup d'espèces qui sont en danger en termes de biodiversité. On a vraiment une situation qui est assez inquiétante. Donc, on voit que c'est ce point de vue philosophique de base étant l'homme préexiste, l'homme utilise, possède ou établit son pouvoir sur l'ensemble du monde, sur l'ensemble du vivant, arrive à des impasses et à un impact extrêmement négatif. Alors, si au lieu de se baser sur cet aspect, la concurrence inévitable, la concurrence issue du fonctionnement naturel, certains aujourd'hui commencent à remettre en question cet aspect-là, et on peut essayer de découvrir justement des exemples, non pas de concurrence, mais de coopération. Donc, les connaissances actuelles font ressortir aujourd'hui qu'il y a dans le fonctionnement du vivant le mélange de ces deux possibilités. Et alors on a peu d'exemples sur, je reviendrai après, sur les exemples possibles en termes de coopération sur l'aspect coopération humaine, mais on sait que, enfin, au niveau des sciences sociales, des études sont faites et des expérimentations, et on sait aujourd'hui que, par exemple, contrairement à cette idée, l'homme est un loup pour l'homme, chacun pour soi, etc. Lorsqu'il y a un péril important, lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a un événement qui met en danger un groupe humain, la réaction est plus fréquemment de coopération que de compétition. On se rend compte aussi dans le monde du travail. Aujourd'hui, il y a des organisations qui mettent en place des systèmes de coopération justement pour améliorer le rendement au travail, pour améliorer l'accroissement industriel, etc. Par exemple, au niveau scientifique, les laboratoires travaillent, on a des chercheurs, mais c'est le chercheur tout seul dans son coin qui fait sa propre recherche et qui se dépêche de publier, etc. Ça existe toujours, effectivement, mais beaucoup plus fréquemment, les chercheurs à l'échelle du monde entier ont des relations entre eux et se rencontrent et coopèrent et se tiennent au courant de leurs avancées, etc. Et c'est ça qui entraîne un meilleur fonctionnement, plus de découvertes et qui effectivement est beaucoup plus efficace en termes de rendu que la compétition effrénée, chacun pour soi. On s'en rend compte aussi en termes pédagogiques aujourd'hui dans les écoles. On a de plus en plus fréquemment des enseignants qui entraînent les élèves et qui les aident à mettre en commun leur travail et à faire des petits ateliers, des choses comme ça, qui vont permettre justement d'avoir de meilleurs résultats, pour le bien de tous. Donc on se rend compte que cette histoire de compétition n'est pas forcément le seul ou le meilleur modèle. Et aujourd'hui, on sait aussi, donc dans les niveaux, au niveau de la connaissance que nous avons du milieu naturel, du fonctionnement, que ça soit végétal ou animal, il existe énormément d'associations de coopération. Donc on appelle ça mutualisme ou parfois symbiose, et ce sont des associations qui sont profitables et parfois indispensables aux associés. Et donc, par exemple, Jean-Marie Pelt dit que la concurrence existe, mais qu'elle n'est plus qu'un moteur parmi d'autres et qu'elle n'est en rien préférentielle à la coopération. Donc, on pourrait aujourd'hui se dire que il y a dans le fonctionnement systémique du monde une sorte d'équilibre, de diversification des espèces. Alors, diversification, est-ce que c'est à travers la question de, jusqu'à présent, on disait c'est la compétition, par exemple, en termes de végétaux, c'est la compétition pour la lumière, l'arbre qui va pousser le mieux, c'est le plus grand et c'est celui qui va arriver à bousculer les autres et à prendre toute la place, toute la lumière pour sa photosynthèse et pour sa vie. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des espèces d'ombres, qu'il y a des arbres sur différents niveaux et que effectivement ils vivent tous quand même. Enfin, je veux dire, la forêt, on se rend compte aujourd'hui que c'est un ensemble. Et plus on avance et plus on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait et que le simple accès à la lumière ou à l'eau n'est pas le mode de fonctionnement et que la compétition n'est pas le véritable mode de fonctionnement de la plupart des espèces et qu'il y a beaucoup, beaucoup de coopération. Et notamment que les forêts sont des milieux qui sont beaucoup plus riches, plus en meilleure santé et plus vivants lorsqu'il y a cette forme de coopération et que ce sont des ensembles. Des recherches et donc un livre de Peter Vollenben qui parle de la vie secrète des arbres, il dit « Chaque arbre est donc utile à la communauté et mérite d'être maintenu en vie aussi longtemps que possible. Même les individus malades sont soutenus et approvisionnés en éléments nutritifs jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Une prochaine fois, peut-être les rôles s'inverseront-ils et ce sera l'arbre soutien qui, à son tour, a besoin d'aide. » C'est-à-dire qu'il y a une coopération qui se fait à travers les racines, à travers le chevelu. Et on a... par exemple, un exemple de ce type qui est dans la forêt boréale, où on a une association conifère-bouleau qui alterne en fonction des saisons. C'est-à-dire ces deux arbres-là ont des racines tellement mêlées, tellement intriquées, donc par les chevelus. Enfin, c'est vraiment une relation très très forte entre ces deux arbres. Et on a une alternance de nourrissage de l'un par l'autre en fonction des saisons. C'est-à-dire que pendant l'été, c'est le bouleau qui fait la photosynthèse, donc qui fait la transformation en sucre et en nourrissement pour l'autre arbre, qui lui reste un peu plus à l'ombre. Donc et le bouleau s'étale avec toutes ses feuilles. Et pendant l'hiver, on a une inversion, et c'est à ce moment-là le conifère qui, le bouleau ayant perdu ses feuilles, c'est le conifère qui reçoit la lumière et qui, comme il produit plus de nourriture que ce dont il a besoin, la retransmet au bouleau. Donc tout ça se passe après par les racines, donc avec cette alternance au niveau des saisons. On a des partenariats bien connus entre mycélium et arbres aussi, donc qui s'auto-nourrissent à certains moments. On a des formes de partenariats du type, alors ceux qu'on connaît bien au niveau du vivant, des animaux, par exemple les requins, avec ces petits poissons, les rémoras, donc des poissons ventouses qui se collent qui viennent donc se scotcher sur le requin et qui le débarrassent de ses parasites. Le requin, il a aussi une crevette qui lui sert de dentiste et qui vient nettoyer. Donc, cette association, elle est indispensable à la vie de la crevette ou du petit poisson, mais elle est fort utile au requin aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est on a ce qu'on appelle partenariat ou mutualisme. Un autre exemple, par exemple, c'est une association fourmi-acacia, c'est-à-dire que les acacias sont des arbres, donc ils sont dans des zones désertiques fréquemment, donc très, très attaqués par les brouteurs du type chèvre. Alors, dans un premier temps, l'acacia produit une sorte de gaz toxique, une sorte de, enfin c'est pas du, oui c'est qui fait que ça va perturber l'animal et l'éloigner, mais c'est pas toujours suffisant. Et donc il a aussi des colonies de fourmis qui se nichent dans des espèces de renflements de son écorce. Et lorsque l'acacia commence à fabriquer ce gaz, les fourmis sont mises en éveil par ça, et elles sortent de leur nid et vont se positionner sur les bourgeons de l'acacia. Et donc là, elles se mettent à piquer, bien sûr, et tous les animaux qui viennent essayer de brouter l'acacia. Donc il y a ce et les fourmis vivent d'une partie de ce qui est produit en termes de sucre et d'aliments par l'acacia. Donc elles sont c'est un hébergement, un loyer qu'elles payent, je dirais. Mais voilà. Donc on a vraiment toute cette existence-là qu'on commence à découvrir un peu partout, qui remet totalement en question notre idée que tout le monde se bat et que c'est la lutte, etc. Et ça, c'est, je pense, extrêmement important de se dire qu'il y a peut-être d'autres façons de voir ou d'autres façons de faire. Alors, par exemple, chez les humains, d'après des travaux donc de Pablo Sevigny et des travaux de sociologie et d'anthropologie, nous avons ces modèles économiques du monde qui nous polluent la vision du monde, et que ces modèles concurrence, compétitivité, chacun pour soi contre tous, ça n'est pas et ça ne doit pas être vu aujourd'hui comme l'alpha et l'oméga de la réussite de vie et donc du bonheur, mais effectivement il y a une nécessité pour nous peut-être de nous dépolluer de cet état d'esprit et de voir que d'autres formules sont possibles. Et par exemple, on pourrait citer en concernant les humains ce fait des équipes de foot amateurs qui parfois arrivent aujourd'hui à battre des équipes de professionnels extrêmement entraînés, extrêmement performants, etc. Et on voit que ce sont des petites équipes de deuxième, troisième catégorie qui arrivent parce qu'il y a une véritable coopération, parce qu'il y a autre chose entre eux que le simple objectif individuel de chacun des joueurs d'une équipe professionnelle, où on a ça n'est plus une équipe, j'allais dire, c'est un groupe d'individus qui visent chacun sa carrière, sa réussite, etc. Et donc qui visent chacun à mener le jeu ou à faire son propre but, etc. Alors, et qui finissent par être moins performants qu'une équipe de seconde zone, d'amateurs, mais qui, eux, sont soudés par quelque chose d'autre que le simple profit personnel et qui sont justement dans une dynamique différente et avec donc du coup des résultats différents. Et ça, on le voit aujourd'hui aussi sur les modèles de travail qui essayent de quand on fait des brainstorming par exemple, c'est effectivement mettre ensemble des individus qui se dynamisent les uns les autres et le résultat est toujours meilleur quand il y a une bonne entente, une bonne équipe, et quand ce sont des gens qui se font confiance et qui n'ont pas peur du regard de l'autre, c'est-à-dire donc du coup qui osent parler, qui osent donner leurs idées. Et là, on a véritablement une formule différente. Donc peut-être on pourrait effectivement se remettre en question sur notre vision du monde et se dire que l'aspect du partage du partenariat et de la non-compétition n'est pas forcément quelque chose qui va diminuer l'être humain, diminuer notre bonheur, notamment, et la beauté de la vie. Et donc l'impact et la position qu'on va avoir dans ce cas-là, comme faisant partie d'un monde où on est juste une espèce parmi d'autres, faisant partie d'un monde vivant et où on a à coopérer non seulement avec nos égaux, avec avec les autres humains, mais aussi peut-être à apprendre de ce qui se passe autour de nous et à le respecter un peu mieux et ne plus utiliser, mais vivre avec et en collaboration. Peut-être que ces éléments-là pourront nous permettre d'évoluer vers un monde plus agréable, plus acceptable et plus vivable. Voilà, pour aujourd'hui,
c'est pas
la philosophie
mal, voilà.
De l'hiver. Donc, on termine peut-être sur une autre musique que
alors,
j'avais
laquelle
une ou l'autre, je ne sais pas. Je vous laisse,
bon,
vous laisse choisir.
Gypsy... Klezmer.
Jelem.
Au revoir.
Au revoir et merci.
À bientôt. Merci.
À bientôt.
Jelly.